Et à la une en Israël, Lise, on va parler des otages, et oui, et on va parler aussi de l'ONU, si j'ai bien tout compris, avec votre invité que je vous laisse le soin de nous présenter.
Je suis ravie d'être en ligne avec Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël en France et à l'ONU. Bonjour Yehuda Lankri.
Bonjour, comment allez-vous ?
Autant que possible. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, Yehuda, pour la première fois depuis le début de ce conflit, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est fendu d'une nouvelle résolution. Il y a eu déjà quatre versions avant celle-ci. Dans la précédente version, l'ONU réclamait 5 jours de trêve humanitaire, 12 voix pour et 3 abstentions, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie. Ma première question, Yehuda Lankri, comment ça se fait que les États-Unis n'ont pas apposé leur veto à cette résolution, à votre avis ?
Bon, c'est compréhensible. Les États-Unis ne peuvent pas s'opposer à des pauses humanitaires puisque les États-Unis le réclament depuis un certain moment. Ils s'opposent au cessez-le-feu, ce qui est autre chose, mais pas aux pauses humanitaires. Et d'ailleurs, notez qu'Israël s'évertue depuis quelques jours déjà à créer des couloirs humanitaire et une assistance humanitaire soutenue. Donc, opposer un veto à cette résolution qui a quand même ce pas positif, je vous rappelle, c'est-à-dire l'appel à la libération immédiate et inconditionnelle des otages détenus par le Hamas, on évoque enfin le mot Hamas et d'autres groupes. Donc, il y a quand même du positif dans cette résolution et les États-Unis ne pouvaient pas tout simplement, comme la Grande-Bretagne, s'opposer par un veto ou par un vote contre la résolution. La Russie l'a fait pour d'autres raisons. Elle n'était pas satisfaite du fait qu'il n'y ait pas d'appel à un cessez-le-feu comme elle l'avait exigé lors des délibérations précédentes.
Alors, effectivement, ça appelle à la libération des otages et ça cite le Hamas, comme vous l'avez dit, Yehuda Lankri, mais il n'y a pas tout de même de condamnation des massacres du 7 octobre dans cette résolution de l'ONU.
C'est la raison majeure pour laquelle les États-Unis ne vont pas adopter cette résolution. Il n'y a pas eu de condamnation de l'attaque sanglante du 7 octobre. Même raison pour la Grande-Bretagne. Donc, elle est imparfaite. Il y a peut-être un petit pas en avant, il y a quelque chose, un aspect positif. On ne peut pas la rejeter en bloc, pour être honnête, puisque nous-mêmes, Israël, sommes intéressés par une trêve humanitaire, mais à condition que les otages soient libérés. Donc, s'il n'y a pas de mouvement de libération des otages détenus par le Hamas et d'autres groupes, il n'y aura pas de trêve humanitaire.
Bien sûr. Alors, cette résolution, Yehuda Lankri, elle a écrite par Malte. C'est bizarre, cette irruption de Malte qui, d'habitude, ne se préoccupe pas forcément de ce qui se passe au Moyen-Orient.
D'abord, elle n'est pas trop éloignée du Moyen-Orient, Malte. Et puis, si je ne m'abuse, Malte est membre du Conseil, membre non permanent du Conseil de sécurité. Donc, elle peut parfaitement accomplir sa mission en introduisant ce projet de résolution qui est devenu maintenant une résolution adoptée, elle est dans son rôle. Il n'y a pas de contradiction.
Alors, d'une manière générale, les résolutions de l'ONU sont systématiquement contre Israël, ou en tout cas très souvent contre Israël. Cette nouvelle résolution 2712, est-ce qu'elle va servir à quelque chose, Yehuda Lankri?
Alors, comme vous l'avez souligné, toutes les résolutions ne sont pas contre Israël. Je vous rappelle que la résolution fondatrice de l'État d'Israël a été celle de l'Assemblée générale, la résolution 181 du 29 novembre 1947. Oui. Bon, ensuite, il y a eu des résolutions qui ont été aussi acceptées par Israël, comme les fameuses résolutions 242-332, pour mettre fin au conflit. Alors, la paix israélo-égyptienne, israélo-jordanienne a été obtenue sur la base de la résolution 242. Le début de travail avec les Palestiniens, l'OLP à l'époque, maintenant l'autorité palestinienne, se base aussi sur la résolution 242. Donc il y a certaines résolutions qui sont des résolutions phares qu'Israël adopte. Celle-ci ne sera pas adoptée par Israël, puisque par la voix de l'ambassadeur israélien aux Nations Unies, elle a rejeté cette résolution, qu'elle n'a pas trouvée satisfaisante du tout, pour les raisons que nous avons évoquées tout à l'heure. Le manque de mention du Hamas et de son attaque du 7 octobre, et le fait que l'appel à la libération des otages, certes, est mentionné, mais ne soit pas mis en exergue de façon plus nette.
Alors, dans cette résolution, il y a aussi quelque chose qui est un peu flou. C'est une formulation qui dit que la résolution appelle à des pauses et couloirs humanitaires pendant un nombre de jours suffisant pour permettre d'apporter une aide humanitaire aux civils de Gaza. Et donc, ce nombre de jours suffisant, il est laissé à la discrétion de chacun.
Exactement. De toute façon, Israël ne va pas mettre en œuvre cette résolution aussi longtemps qu'il n'y a pas de libération des otages, ne serait-ce que d'une façon partielle mais significative. Tant qu'il n'y a pas de mouvement sur cet aspect, la résolution ne concernera pas Israël. Elle est évidemment conditionnée par cet aspect majeur, celui de la libération des otages. Maintenant, des pauses humanitaires, sur le principe, Israël ne s'y oppose pas, à condition qu'elles soient évidemment gérées, de sorte que l'action militaire entreprise par Israël ne soit pas perturbée par des pauses trop longue et répétitive qui pourrait permettre au Hamas de se réorganiser.
Alors, Yehuda Lankri, cette semaine, Eli Cohen, le ministre des Affaires étrangères d'Israël, était à Genève pour rencontrer un certain nombre d'ambassadeurs et justement revenir sur cette question des otages, peut-être pour obtenir un soutien international. Comment vous avez trouvé ces interactions entre le ministre israélien et les ambassadeurs ?
Je sais que ces rencontres les plus importantes se sont déroulées au niveau de la présidente de la Croix-Rouge internationale, au niveau du directeur de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. Je ne connais pas d'autres réunions avec d'autres ambassadeurs, mais enfin, d'après les comptes rendus que j'ai pu lire sur cette visite de travail qui s'imposait, elle a été faite d'ailleurs avec son collègue de la santé, le ministre de la Santé israélien. Je crois que le rappel des devoirs et des obligations de ces organisations comme la Croix-Rouge internationale et l'OMS s'imposait, et le ministre Eli Cohen a fait une décision importante et salutaire en allant demander et mettre, avec les familles, d'ailleurs certaines familles représentatives du groupe des otages, mettre les responsables onusiens et internationaux devant leurs responsabilités. Je pense qu'à ce niveau, c'était très important. En revanche, sa déclaration sur l'incompétence du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et son appel à sa démission, j'estime personnellement que par-delà des faits déclaratifs qui vaut ce qu'il vaut, cette déclaration n'aura pas évidemment la moindre chance d'être mise en œuvre par le secrétaire général. Il tiendra à sa fonction jusqu'à la fin de son mandat.
Oui, bien sûr. Justement, de nombreuses personnes dénonçaient, Yehuda Lankri, l'inaction de la Croix-Rouge et de l'Organisation mondiale de la santé sur ce dossier des otages à Gaza. Et on n'a pas eu l'impression qu'après la rencontre avec Eli Cohen, ça allait énormément changer.
Ces procédures sont lentes, sinueuses et vicieuses quand il s'agit du Hamas. Nous avons une certaine expérience avec le Hamas lors de tractations pour la libération d'un détenu israélien, le soldat Gilad Shalit. Ça nous a valu beaucoup, beaucoup d'efforts. Et même rendre visite à Gilad Shalit a demandé aussi beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Donc, avec le Hamas, il est impossible d'avancer de façon concrète et rapide, mais cela ne libère pas les organisations internationales de multiplier leurs efforts afin de parvenir à une solution. Cela d'autant plus que le Hamas est mis sous pression par la manœuvre militaire israélienne actuelle à Gaza, et qu'il cherche lui aussi des possibilités d'ouverture tout en restant fidèle à ses traditions et à ses vices s'agissant du droit international.
Merci beaucoup pour cette analyse, Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël en France et à l'ONU. Une bonne journée à vous et à bientôt.
Merci beaucoup, Lise. À bientôt. Au revoir.